sans plus tarder, Florence Dupont, je vous passe la parole.
Merci. Ça marche. Vous m'entendez ? Merci. Bon. Non, mais j'aurais pas le talent de mes deux prédécesseurs, donc je vais demander votre indulgence. Oui, donc ma spécialité, c'est traduire les théâtres antiques, tragédie et comédie romaine en particulier. Et donc, je voudrais vous parler ce soir d'un problème de traduction, donc d'un problème, un problème de traduction dans une comédie de Plaut qui concerne un langage imaginaire. Alors, je m'explique un peu sur ce que j'entends par langage imaginaire. Oui, alors ça, c'est pas Plaut. Hein. Oui, bon. Alors, voilà. Donc, le théâtre utilise souvent des langages imaginaires, comme vous savez, et qui sont donc fabriqués à des fins humoristiques quand il s'agit de comédie. Et il y en a de toute espèce, je ne vais pas vous en faire la liste. Dans le Carthaginois de Plaut, qui est écrit en latin, je vous rappelle, hein, il s'agit d'un monologue et de quelques répliques dans une langue que je vais définir comme du pseudo-punique. Le punique ou le phénicien, c'est la même chose, en fait, c'est appelé punicus ou phoenicus en latin. C'est la langue des Carthaginois, et ce pseudo-punique est attribué à des personnages carthaginois de la pièce, dont le principal s'appelle Hannon, qui est un nom punique connu. Donc ce punique imaginaire ressemble, par sa phonétique, à du punique, mais les mots sont sans signification. Alors, je vous dis les choses un peu carrées comme ça, en fait c'est plus compliqué parce que le punique, on ne sait pas ce que c'est. Alors voilà, bon. Donc, mais vous verrez, c'est amusant quand même. Alors, le cas du faux punique dans le Carthaginois de Plaut est comparable, ça vous explique ce que vous allez voir maintenant, est comparable au faux allemand que l'on a dans le Dictateur de Chaplin. En effet, il s'agit d'un langage imaginaire qui ressemble phonétiquement à une langue réelle et qui, dans la pièce et le film, sont présentés comme du vrai punique ou de l'allemand véritable. Si on compare ces deux exemples avec une autre forme de langue imaginaire, c'est-à-dire le faux persan dans les Acarniens d'Aristophane, comme le faux turc dans le Bourgeois gentilhomme, on constate que le dispositif est tout à fait différent. En effet, chez Aristophane et chez Molière, dans le Bourgeois, il s'agit de ruses. Donc le public sait qu'il s'agit de fausses langues, tandis que le pseudo-punique et le pseudo-allemand dans Chaplin et chez Plaut ne sont pas destinés à être dénoncés à un moment comme les artifices d'une ruse. Donc en fait, dans la pièce ou dans le film, c'est des vraies langues. Bon, il n'y a que le public qui doit s'apercevoir que c'est des faux. Oui, ça devient un peu compliqué et ça ne va pas s'arranger. Alors, c'est en effet... ces langages imaginaires, bon, alors, elles vont intervenir dans des courtes séquences, donc attribuées à un ou deux personnages, et alors ces personnages, dans le reste de la pièce, vont parler normalement. C'est-à-dire que donc Hinkle, celui qui est là, va parler anglais, puisque le film de Chaplin est en anglais, tandis que Hannon parlera en latin dans le reste de la pièce. Donc en fait, ces passages ne sont pas destinés à fabriquer quelqu'un qui serait un étranger, mais c'est des séquences qui ont leur raison d'être dans le comique. Alors, en fait, ce qui est important, et c'est là où ça va être compliqué ensuite pour la traduction, c'est que les caricatures sonores, alors du punique, bon, on verra tout à l'heure, mais du pseudo-allemand, il faut qu'ils soient reconnaissables. Donc, ces langages imaginaires ne fonctionnent qu'au théâtre et au cinéma, hein, puisqu'ils n'existent pas s'ils sont lus. Si vous lisez, ça ne donnera rien, parce que si vous lisez sans oraliser, l'effet de caricature sonore sera manqué, et donc il faut absolument qu'il soit joué. Donc on est dans des systèmes de théâtre, et donc il n'existe que s'il donne lieu à des performances réalisées par des personnages pour lesquels ils ont été inventés, Alors déjà, vous voyez, c'est tout un dispositif que je suis en train d'annoncer, et en direction d'un public précis, dont on attend une certaine compétence. Il faut qu'ils reconnaissent de l'allemand, du pseudo-allemand ou du pseudo-punique, mais une certaine incompétence. Parce que s'ils savent l'allemand vraiment, ça n'ira pas. Alors, c'est ainsi qu'ils prennent une signification, donc ces passages-là, dans des langues imaginaires, prennent des significations en l'absence d'une sémantique des énoncés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'en fait, tout le monde comprend, alors qu'il n'y a aucun sens. Oui. Alors, donc, pour que, comme malheureusement je n'ai pas de DVD de l'époque de Plaut, mais que j'en avais un de Chaplin, j'ai donc apporté ça. Et donc, je vous annonce, donc je vais vous donner à voir et entendre un petit bout de ce passage. Et je vous rappelle alors le contexte. Et comme c'est. En fait, Plaut fonctionne comme ça. Ça vous donnera une certaine idée du fonctionnement dans la comédie romaine à partir du film anglais. Alors, en effet, le faux allemand du dictateur donc de Chaplin est destiné à un discours, donc à un discours, pas un dialogue, celui du dictateur qui s'appelle donc Adenoïde Hinkel, mais qui est évidemment la caricature d'Hitler. Alors, ce qui aide à comprendre le texte qui est en fait incompréhensible, il prononce donc en un uniforme pseudo-nazi, vous voyez, tout est pseudo en fait. Donc il va gesticuler donc devant une foule fanatisée et le film montre la foule. Et le contexte donc imite les grandes messes antisémites du Troisième Reich célébrées à Nuremberg. Alors ce qu'il y a, c'est que les sonorités de ce pseudo-allemand. Qu'est-ce qu'on entend ? Je vous annonce un peu ce que vous allez entendre, parce que comme c'est court, j'aime mieux que vous soyez préparés. Alors, donc, ils vont entendre, on entend ces haineux aux oreilles d'un public. Alors, le public européen, c'est fait pour un public anglophone. Ça marche aussi pour les publics francophones. Mais il faut encore appartenir à la seconde moitié du XXe siècle, qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Mais comme vous en avez entendu parler, les plus jeunes, ça devrait marcher. Mais en effet, ni un spectateur allemand, ni un anglophone de Hong Kong, je dis un anglophone qui n'aura jamais entendu parler allemand, ne va rire à cette séquence, je pense. L'un est trop compétent, l'allemand, l'autre est trop incompétent, le type de... Alors, donc, voici le passage du dictateur. Voilà. Ah.
Meine Täter wieder treffen, die treffen, sie treffen!
Adenoid Hinkel has just said yesterday Tomania was down, but today she has risen.
Democracy stunk.
Democracy is fragrant.
Liberty stunk.
Liberty is odious.
Free sprechen stunk.
Freedom of speech is objectionable.
Tomania mit der größten Armee in der Welt.
Tomania has the greatest army in the world.
Der größte Navy in der Welt.
The greatest navy in the world.
Mit seiner erste große alles und einer zu sacrifice.
But to remain great, we must sacrifice.
Aye, alles. Nein, Strotten, tighten the belts.
We must tighten our belts.
Heil Hinkel, ist man der Fürsten? Ah, Herring, Pupchen.
Excusez-moi. Je vais me faire des reproches. Oui, oui, on va faire la suite après. Vous avez vu qu'il y a aussi un effet de traduction. Alors, en fait, j'ai mis les sous-titres parce que j'avais peur qu'on n'entende pas bien. Mais la traduction, elle n'est pas en sous-titres, évidemment. Elle est en anglais direct. Donc, en fait, il y a ce texte incompréhensible qu'on comprend très bien, bon, et parce qu'il y a aussi quelques mots allemands qu'on repère et tout, et puis il y a la traduction et il y a la gestuelle. Alors maintenant, je vais prendre quelques secondes pour mettre mon PowerPoint, parce qu'il n'était pas compatible avec le DVD. Voilà, c'est tout. Alors. Donc, en fait, voilà ce à quoi j'ai eu à faire. Il s'agit d'un monologue, hein, dans la pièce de Plaut, hein, un monologue en faux punique. Hein. Alors, pour un personnage qui donc s'appelle Hannon, qui vient de Carthage. Alors, tout se passe dans une ville grecque qui s'appelle Calydon, en Étolie. Alors, les comédies romaines se passent, alors je vous dis ça rapidement, se passent toujours donc dans un monde grec, dans une ville grecque, et parce qu'en fait, les comédies romaines sont des comédies grecques en latin. C'est la meilleure formule, je crois, pour indiquer ce que c'est. Enfin, on pourra en discuter si vous voulez, ça prendra quelque temps. C'est des comédies grecques en latin. Donc, tout se passe, ça se parle latin, mais le contexte est grec. Alors, si ça vous étonne, c'est exactement comme les western spaghetti. Hein, je veux dire, tout se passe dans le Grand Ouest, hein, mais tout le monde parle italien. Bon, ben, ça, c'est pareil. Comme quoi, les Italiens prennent la suite. Alors, donc, voilà. Alors, non, attendez, je reviens à Plaut, c'est moins drôle. Alors, donc, le personnage de Hannon, il est bilingue. Hein, c'est-à-dire qu'il parle aussi bien le punique que le latin. Hein, et alors, je dis ça pour vous comprenez bien qu'il n'y a pas du tout d'effet ethnique sur ce personnage, puisque, de toute façon, il se révélera être l'oncle d'un jeune homme au nom grec, Agorastoclès, qui a été adopté par un citoyen de la ville grecque de Calydon, mais qui est d'origine carthaginoise. Je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est toujours très compliqué. Hein. Et alors, ce jeune homme est tout aussi grec que tous les autres jeunes premiers de la comédie. Donc, voici donc, il y a donc ce monologue en pseudo-punique, hein, et ensuite, immédiatement après, Hannon, donc le personnage carthaginois qui vient de dire ça, va immédiatement traduire ce qu'il a dit en latin. Voilà, donc c'est comme ça que c'est configuré. Alors après, mais là je passe, je vous en parlerai pas parce que on n'a pas le temps, dans une scène qui suit, on a la nourrice des filles, parce qu'il a perdu ses deux filles, enfin bon, qui ont été enlevées, mais tout le monde se retrouve là, et puis ça finit bien. Hein, mais la nourrice des filles, qui est un nom punique, va parler aussi avec, en pseudo-carthaginois. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le pseudo-carthaginois fonctionne comme une vraie langue à l'intérieur de la comédie. Bon, alors, maintenant, voilà, ce que j'avais ça, je traduisais tout Plaut, et donc, il fallait bien que je traduise ça, puisque je traduisais le Poénoulos. Alors, qu'est-ce que j'allais en faire de ce truc-là? J'ai regardé ce que faisaient les traducteurs qui m'avaient précédé, ils avaient trouvé la bonne solution, ils avaient supprimé. Après, ils ont gardé que ça, la traduction en latin, qui, comme vous allez le voir, est un texte absolument plat, qui ne fonctionne pas, hein, et donc, voilà. De toute façon, tous les traducteurs de Plaut sont convaincus, enfin, la plupart, que c'est pas drôle, donc ça les gêne pas. Alors, donc, qu'est-ce que j'allais faire de tout ça? Alors, il faut bien comprendre, alors, donc, au fond, ce qu'il fallait, c'est que je cherche un équivalent, hein, contemporain de cette chose-là, hein, et donc il fallait que je comprenne comment ça fonctionnait dans le texte latin. Alors, donc, voilà, je me disais, bon, le public reconnaît la langue étrangère que le texte imite, mais comprend aussi que le texte est un faux, qu'il ne dit rien, qu'il n'est que la caricature sonore de cette langue, donc c'est un jeu linguistique qui va le faire rire. C'est-à-dire qu'en s'apercevant qu'on traduit un texte qui ne veut rien dire, mais qui ressemble à une langue qu'on connaît, c'est ça le dispositif qui doit faire rire. Donc, le signifiant est isolé du signifié, et pourtant, il reconnaît la langue. Il ne comprend rien, mais devine un peu de quoi il s'agit, grâce au contexte et au jeu de l'acteur. En effet, ce qu'il faut que je vous explique, je vais essayer de faire au mieux, hein, c'est que, en fait, ouais, j'ai sauté, mais ça fait rien. La comédie romaine est un système extrêmement codifié. C'est-à-dire que lorsqu'un personnage nouveau qu'on n'a jamais vu arrive en scène, on sait ce qu'il va dire, on sait le ton de voix qu'il va avoir et on sait le jeu qu'il va avoir. Surtout quand c'est le cas de Hannon, je reviendrai là-dessus, qui est un vieillard. Voilà. Donc, de toute façon, on sait ce qui va se passer. Alors, la question de la traduction, ce que je vais essayer de faire en français, elle est donc en relation directe avec la compétence attendue du public. Donc, il faut que je reconstitue la compétence des Romains pour retrouver un équivalent contemporain. De prime abord, on peut se demander, en effet, pourquoi traduire un texte qui n'a pas de sens. Mais vous avez compris pourquoi j'ai tenu à traduire ce texte, enfin, trouver une équivalence. C'est parce que, en fait, c'est une entrée qui doit faire rire. Ça doit faire rire les gens. Alors, comme disait très bien, vous avez entendu tout à l'heure, quand on commence une séquence qui doit faire rire, il faut commencer très fort. Après, les gens riront à n'importe quoi. Mais alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais il connaît la comédie romaine. Il a compris comment ça fonctionnait, à Rome en tout cas. Alors, ça, c'est exactement ça. Donc, je ne peux pas me permettre de faire comme mes collègues, si je veux que ce texte soit joué, qui est quand même le but de l'opération. Donc, il faut que je trouve un truc. Dans le cas de Plaute, le public romain connaissait les sonorités de la langue carthaginoise, sans pour la plupart savoir ni connaître cette langue. Cela dit, aujourd'hui, plus personne ne connaît la phonétique du carthaginois, alors donc le public français encore moins. Donc je ne. Bah oui, parce que. Même les savants ne le connaissent pas. Donc, je ne pouvais pas conserver, il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne pouvais pas conserver ce magma sonore. Alors, peut-être qu'avec un acteur fantastique, ça marcherait, mais je crois que c'est quand même pas très facile. Et donc, ça ne ferait pas rire le public romain. Alors là, j'imagine que vous vous posez une question. Et donc, en fait, avant d'en venir à ce que j'ai trouvé, en fait, je ne le dirai qu'à la fin. Parce que sinon, vous aurez compris, bon, ça ne vous intéresse pas. Donc, je vais quand même répondre à des questions. Qu'est-ce qu'un Carthaginois pour un spectateur romain du IIe siècle avant Jésus-Christ? On peut se demander quand même. Qu'est-ce que c'est que cette langue pour lui? Alors, le spectateur romain, généralement, c'est un milieu social élevé ou moyen. Le théâtre est pour tout le monde, mais c'est les gens essentiellement qui sont en ville qui y vont. Donc, c'est plutôt l'élite de la population, contrairement à ce qu'on vous a appris. Si vous avez un peu de connaissances historiques, vous devez savoir que Plaute est 254-184 avant Jésus-Christ, est contemporain de la Deuxième Guerre punique. Et qui se termine donc par le triomphe de Rome sur Hannibal. Donc, les relations entre Rome et Carthage, elles remontent à très longtemps, elles ont souvent été conflictuelles. Les Carthaginois, on sait ce que c'est, et on en a rencontré, ils font du commerce, enfin, etc. Bon, mais la question qui se pose, c'est que est-ce que le conflit avec Carthage a un écho dans la comédie? Alors, je réponds tout de suite, non, c'est simple. Visiblement, ça n'interfère pas, c'est à peu près normal d'ailleurs, mais enfin, bon, je pourrais vous expliquer pourquoi. En tout cas, aucune allusion dans la pièce, ça n'est pas ces salauds de Carthaginois, non, pas du tout, c'est un Carthaginois. Il faut dire aussi que la pièce latine est traduite d'une pièce grecque qui était précédée de loin les guerres puniques. Alors, donc ça c'est la première question, le premier sans doute. Une chose auquel vous auriez pu penser, et peut-être que oui, peut-être que non. Deuxième question, alors le suspense continue. Qu'est-ce qui nous prouve que les passages présentés comme puniques par le texte de Plaute sont du faux punique. Puisqu'on ne connaît pas le punique. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais, en fait, et voilà. En plus que le punique ne peut pas s'écrire comme ça, hein, puisque c'est une langue où on ne marque que les consonnes. Hein, c'est du phénicien. Bon. Alors, en fait, on sait peu de choses du punique, hein, et on sait encore moins du phénicien. Donc, alors, en plus, alors, bon, c'est un suspense, à part que les gens qui savent un tout petit peu de phénicien disent, ça ressemble à rien, mais bon, alors, oui, en plus, ce qui est normal, les copistes, parce qu'on a des manuscrits qui ont été copiés plusieurs fois au cours du temps, sans doute parce qu'ils ne comprennent rien, ou je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a trois versions très différentes de cette chose-là. Alors, je peux vous montrer une autre. Voilà. Et puis, il y a une troisième aussi. Vous allez voir, comme je l'ai photographiée avec mon appareil photo sur Internet. Alors, c'est très différent parce qu'il y a plein de mots latins, mais bon... Mais sans doute que le copiste s'est dit, il faut peut-être trouver un truc. Alors, donc... alors, oui, ce texte-là, je vais vous dire, juste, c'est pour, parce que vous avez décidé de rire, je vais vous faire rire, c'est que, alors, au cours des siècles, depuis le XVIIe siècle, on a essayé de trouver quelle était cette langue. Alors, je peux vous faire la liste de ce qui a été trouvé. J'ai même un dossier complet, mais en fait, qui est très drôle, mais... Mais vous savez, c'est le comique malgré soi des érudits français. Bon. Alors, il faut voir ce que les Anglais ont écrit à juste titre hein, à propos de ça. Bon. En disant, mais qu'est-ce qui a pris aux Français de vouloir trouver ? Alors, je vous énumère, c'est soit de l'hébreu, soit du cananéen, soit du maltais, soit de l'irlandais ou du basque. Voilà. Donc, en fait, c'est rien du... Plus récemment, parce que quelqu'un a, bon, je ne donnerai pas son nom, c'est pas gentil, mais a voulu absolument y voir du punique. Alors, c'est un type très savant. Le peu de punique qu'on connaît, il le connaît par cœur. Mais le problème, c'est que, alors, j'aurais pas d'ennui, il est mort. Mais en fait. Bon, en fait, alors, ce qui s'est passé, c'est que voici le raisonnement, mais qui est très caractéristique de la science française. Il repère des mots puniques, ça, il les repère. Puis après, il y a tout le reste. Alors, ils retrouvent des mots puniques, mais derrière des déformations, des copistes. Il dit ça, c'est pas ça, mais c'est ça quand même. Et puis ceux qui n'arrivent absolument pas à reconstituer, il dit, c'est formidable, notre connaissance de la langue punique avance. Puisque cet homme-là était au CNRS quand même. Hein. Mais c'est amusant parce qu'il n'y a que vous et moi que ça fait rire. Bon, je reviens aux choses sérieuses. Et alors, donc en fait, je me suis dit, il faut voir le fonctionnement du passage. Alors, en fait, donc, je rappelle, Hannon, le Carthaginois, entre pour la première fois en scène. Alors, en fait, il y a eu avant une scène chantée et dansée, parce que les trois quarts des comédies de Plaute sont chantées et dansées. Mais de temps en temps, il y a des scènes comme celle-ci, où tout le comique tient à la langue et pas au jeu. Pas au jeu physique, etc., ni à la danse. Voilà. Donc là, la musique s'arrête, arrive un type. Voilà. Alors, il est un peu particulier parce qu'il fait une entrée spectaculaire. Hein. Il est suivi d'une ribambelle d'esclaves qui portent ses bagages. Et les esclaves ont aux oreilles d'énormes anneaux. Et lui, alors, il est vêtu d'une robe, mais je vous explique un peu parce que c'est pas le fait qu'il ait une longue tunique, hein, c'est pas bizarre. Le problème, c'est que normalement, il devrait avoir un manteau au-dessus, ce qu'on appelle un pallium, hein, qui est le costume de tous les acteurs de comédie. Donc en fait, c'est comme s'il entrait en caleçon. Vous voyez, c'est ça le problème. Hein, il est en sous-vêtements. Hein, et mais cela dit, c'est caractéristique, c'est le costume convenu de l'oriental. Donc ça va être une scène uniquement parlée, sans jeu du corps, sans geste, où seul compte les mots et le jeu de la voix. Donc, il entre, il est immobile, il commence un monologue. Et ce monologue, c'est ça. Hein. Et comme il est normal pour un nouveau personnage, qu'il adresse au public. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est sûr du jeu. Le jeu, puisqu'en fait, toute entrée, on appelle ça une entrée de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, quand un nouveau personnage, pour la première fois, entre en scène, il fait une entrée qui est codifiée et qui correspond à son rôle. Non pas à son personnage, mais à son rôle. Alors ici, c'est un Senex, un vieux. Hein, et donc, il a un jeu de voix. Il dit « c'est moi », etc. etc. hein, vous allez voir ce qu'il dit, puisqu'on l'a en... D'ailleurs, autant le faire tout de suite. Je l'ai traduit en français, hein, mais ça, c'est pour les latinistes. Une seconde. Alors, donc... Il a un jeu convenu, hein, il est grandiloquent, pompeux, il dit qui il est, d'où il vient et pourquoi il est venu. C'est souvent d'ailleurs une parodie tragique. Alors, attendez, c'est là. Voilà, ça c'est pour les rares qui savent le français, pas seulement le latin. Alors, donc voici ce que j'ai traduit. Hein. Alors, bon, vous voyez, c'est un texte qui est complètement plat. Je veux dire, je révère et j'adore les dieux et les déesses de cette ville, c'est normal quand on arrive. Je suis venu ici à mes frais en pèlerinage. Hein, donc ça, c'est les dieux, vous voyez, j'ai dépensé pour vous. Hein, alors, ce qui est en gras, je vous expliquerai pourquoi. Donc, pour qu'ils me permettent de retrouver mes filles et le fils de mon frère, Dieu, j'ai foi en vous, ils ont tous les trois été kidnappés. Oui. Alors, les enfants... J'ai eu autrefois ici comme hôte et ami Antidamas. On dit qu'il lui est arrivé ce qui devait lui arriver un jour ou l'autre. Il paraît que son... Alors, c'est une formule euphémiste pour dire qu'il est mort. Il paraît que son fils Agorastoclès serait ici. Alors là, c'est pas drôle. Alors, je lui apporte ce gage de notre hospitalité que j'ai avec moi, puisque bon, c'est le système de l'hospitalité. Quand on arrive dans une ville, on a un signe d'hospitalité qu'on va trouver son hôte, etc. On m'a indiqué qu'il habitait dans ce quartier. Je vais me renseigner auprès de ces gens qui sortent de cette maison. Vous voyez que tout ça est très plat, hein, et ne peut pas faire une entrée comique. Alors en fait, en réalité, tout le système fonctionne là-dessus, c'est que ce texte est la traduction du texte qui précède. En effet, vous avez. Alors pourquoi il est probable que c'est la traduction et on va voir le jeu que ça suppose. En effet, vous voyez, vous avez Antidamas et Agorastoclès que l'on a dans le texte latin au même endroit et avec la même longueur, le même nombre de vers. Et voilà. Donc, on peut penser que ça correspond. Alors, qu'est-ce que j'en ai déduit peut-être ? J'ai peut-être un peu abusé, mais bon. En effet, si vous voulez, ça serait la traduction. Donc, je vais vous redonner le français quand même. Ça serait la traduction du texte en pseudo-punique. C'est-à-dire qu'en fait, le public a dû. Bon, entendu des sonorités en im, o, etc., qui sont les sonorités du phénicien, hein, et il a repéré les noms Antidamas et Agorastoclès. Hein, voilà. La même longueur. Voilà. Alors, moi, ce que j'imagine, et avant de vous dire comment j'ai traduit, j'imagine un système de jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, dans le texte en pseudo-punique, il a calé le jeu codifié sur le texte en pseudo-punique, hein, avec donc tout ce jeu codifié, et il refait exactement la même chose, le même jeu, avec le texte en latin que je vous donne en français. C'est pour ça que j'ai avec des changements de ton. Par exemple, vous voyez. J'ai imaginé, mais ça, c'est, c'est des, ce serait au metteur en scène ou à l'acteur de le faire. Mais donc, vous avez Dieu, j'ai foi en vous, ils sont tous les trois été kidnappés, sanglots. En plus, c'est toujours surjoué, ce genre de passage, enfin, surjoué pour nous. Hein. Et ensuite, hein, après les sanglots, c'est beaucoup plus narratif. Hein, il explique qu'il a comme hôte, Antidamas, etc. Alors, je lui apporte ce gage de notre spiritualité. Ce que je pense, hein, ce qui serait amusant si on le joue comme ça, c'est que, alors souvent, bon, le gage d'hospitalité, au lieu que ça soit un truc très réaliste, on fait des, vous voyez, des trucs énormes. Hein, je veux dire, comme ce sont des moitiés, vous pouvez avoir un demi ours en plus. Enfin, vous voyez des trucs comme ça, tout rose. Oui, par exemple. Hein, je veux dire, c'est-à-dire que, et alors, et qu'il l'agite. Vous voyez, c'est ce gage d'hospitalité. Alors, s'il le fait deux fois au même moment par rapport à Agorastoclès et Antidamas, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, le comique va venir du fait que, d'une part, le public, en entendant les sonorités carthaginoises, mais sur, qui sont utilisées pour une scène codifiée, en fait, ils ont tout compris. Hein, les sanglots, en plus ils connaissent l'histoire parce que depuis le début on en est au vers 940. Vous voyez donc, quand même, on connaît l'histoire. Le type qui arrive et qui raconte qu'on lui a enlevé ses filles, on sait ça par cœur. D'ailleurs, les filles sont là, elles sont devenues grandes. Il y en a une qui est amoureuse de l'autre, enfin bon, du garçon, Agorastoclès. Bon, on connaît l'histoire. Donc en fait, ils savent ce qu'il dit. Hein, ils savent ce qu'il dit grâce au contexte, grâce à la codification, grâce à des repères dans le texte. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il refait la même chose en latin. C'est-à-dire que cette scène qui est en particulier, vous voyez, bon, il a pleuré, il a fait des gros effets sentimentaux une fois, il refait exactement les mêmes avec la traduction en latin. Je pense que c'est... Bon, vous voyez, je ne suis pas douée du tout pour faire comprendre ce que c'est drôle. Alors, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez un effet d'auto... Ben oui, ça, les profs, quand ils expliquent une comédie, c'est terrible. Autant la tragédie, ça va, mais alors un cours sur une comédie, c'est effrayant. Alors, donc, en fait, si vous voulez, ce qui pourrait être joué spontané, etc., devient... On voit bien, enfin, il est clair qu'il y a une réflexivité, que c'est le code qui est exhibé et non pas la douleur du monsieur. Alors, voilà, alors, donc, ah oui, et en outre, alors oui, du coup, j'ai oublié quelque chose, c'est que, alors, juste après, alors, moi, ce que j'imagine, juste, c'est que l'articulation se fait entre le texte en pseudo-punique et le texte en latin. On peut imaginer, bon, ça c'est moi qui fais, quand je traduis j'ai besoin de voir, mais après metteur en scène ne faut pas du tout la même chose, du coup je suis déçue. Mais alors, donc on peut imaginer, donc Hannon fait son entrée avec son texte en pseudo-carthaginois, public, rien. Et bon, il y a une sorte d'interaction, la comédie romaine joue beaucoup sur l'interaction avec le public, hein, public nul, se demande ce qui se passe. Et du coup, il l'embraye en latin. Tout le monde est soulagé. Hein, et le soulagement se traduit par du rire. Alors, et puis, au cas où il y en a encore quelques-uns qui n'auraient pas compris. Non, je ne dis pas pour vous. Alors, voilà. Le public romain, juste après, vous avez un dialogue entre Milphion, qui est un esclave, et Agorastoclès, hein, qui est le jeune premier. Hein. Et alors, donc, il y a beaucoup d'apartés aussi dans la comédie romaine. Donc, eux, en fait, ils ont vu entrer Hannon, ils sont au fond, hein, ils ont vu entrer Hannon, et ils discutent à propos de ce type qui arrive. Alors, vous voyez, mais qui est ce drôle d'oiseau qui se promène alors, en Rome, disons, en caleçon, si vous voulez, hein, on lui a piqué son manteau au bain public. Ça, c'est une plaisanterie classique parce qu'il y avait beaucoup de voleurs dans les bains publics. Et bon, donc, quand on se déshabillait, on allait au bain public, il y avait toujours des risques. Il a bien l'air d'un phénicien. Alors, ça, c'est bien parce que s'il est au cas où le public n'aurait pas compris, il a bien l'air, ça veut dire qu'il a bien le costume comique de phénicien. Soit, c'est un gogo. Bon, c'est un gogo. Ces esclaves sont des vieillards, des antiquités. Alors, bizarre. Alors, Milphion, l'esclave, il a pour mission de faire rigoler. Alors, donc, ils doivent faire rigoler. Alors, il dit donc que c'est des vieillards des antiquités. Comment tu le sais? Tu ne vois pas que les types qui le suivent avec des bagages, à mon avis, ils n'ont déjà plus de doigts. Donc, ils sont tellement vieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leurs anneaux aux oreilles. Bon. Et là, ça embraye. Alors, vous voyez, Hannon dit, je vais m'adresser à eux en langue phénicienne. S'ils répondent, je continuerai en phénicien. Sinon, je retournerai à la langue qui se parle ici. Alors, en fait, c'est parce qu'après, il y a une plaisanterie. Milfion fait semblant de comprendre, mais il ne comprend rien, donc il traduit n'importe quoi. Bon, ça, c'est un coup classique. Alors, donc, ben voilà. On arrive à la chose cruciale. Qu'est-ce que j'ai traduit? Alors, je me suis dit, voilà. Enfin, je vais vous donner mon... Je vais le donner tout de suite. Hop, voilà. Alors, en fait... Ouais. Bon. Ce que j'espère, c'est qu'il y a des metteurs en scène dans la salle et que ça leur donnera des envies. Alors, donc, en fait, bon, je ne suis pas sûre que ça soit de très bon goût, mais surtout en ce moment, mais voilà. Donc, je me suis dit, et ça sera la fin du tout, hein, je me suis dit, le public français reconnaît les mots arabes, mais ne sait pas l'arabe. Même, vous savez très bien que beaucoup d'entre nous, plus jeunes que moi d'ailleurs, qui sont issus de l'immigration maghrébine, savent pas l'arabe. Hein, je veux dire. Il y en a quelques-uns, quelques-unes, bravo, mais la plupart ne savent pas. Donc on peut considérer globalement que les Français ne savent pas l'arabe. En revanche, il y a énormément de mots arabes en français. Hein. Donc, en fait, j'ai joué là-dessus. Des mots donc, qui sont à la fois qui ont des têtes d'arabes, si je peux dire, hein, mais d'ailleurs, dont on sait le sens en français, hein, mais qui, mis bout à bout, ne forment pas un texte. Hein. Et alors, j'ai flanqué Antidamas et Agorasoclès dedans, hein, et voilà. Donc... Alors, en plus, une facilité, c'est que Carthage étant en Tunisie, hein, ça renforçait la chose. C'est-à-dire que, voilà, au fond, c'est les Carthaginois d'aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, il n'y a rien à en dire, je ne vais pas vous lire le texte. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que... je suis allée sur Internet... J'ai ramassé tous les mots arabes qui existaient en français. Il n'y a pas tout, d'ailleurs. Il y en a énormément. Hein, et je les ai mis comme ça. Hein, donc, je les ai mis comme ça. Les uns après les autres. Alors, donc, je me suis dit aussi qu'il y aurait un effet supplémentaire qui n'est pas dans le texte latin. C'est qu'il y a un effet de liste. Vous savez que lorsque vous faites une liste, et que très vite, lorsqu'on a compris le principe de la liste, on attend la suite, parce qu'on est aussi capable de produire la liste. Ah oui, l'effet de liste, c'est un truc connu pour les littéraires. Alors, donc ici, il y a un effet de liste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot qui soit répété. Hein, je ne crois pas. Kif-kif. Ah bon, alors... Oula, vous lisez bien et vite, hein. je retire ça. Bon. Il y a deux fois Vilaya, oui. Bon, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je me demande s'il faut faire une réédition, peut-être. Alors, évidemment, je vais arrêter là, hein, évidemment, c'est juste une proposition hein, pour les metteurs en scène. Ils peuvent faire plus court, parce que c'est assez long, en fait. Hein, ils peuvent faire plus court. Mais si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'on peut faire fonctionner avec ça un équivalent au texte latin. Hein, c'est-à-dire qu'on peut faire, tout d'un coup, on commence par un texte qui est à la fois de l'arabe sans être de l'arabe, hein, et qui devrait... Alors, et on peut aussi jouer... le fait que le texte français qui va suivre, l'acteur peut le jouer exactement comme il a joué le texte en pseudo-arabe. Donc, en fait, je voudrais juste conclure maintenant. Et comme ça, s'il y a... On a dit qu'il ne faut pas plus de deux questions. Donc, s'il y a deux questions ou une... Voilà. Alors, conclusion, qu'est-ce que je dis? C'est-à-dire que ce qui est amusant pour en parler ici, c'est qu'en fait, vous avez vu, que le texte de Plaut est lui-même un jeu avec une traduction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la traduction qui constitue en grande partie le comique de ce passage. Donc moi, j'étais appelée à traduire une traduction. Donc j'avais toutes les raisons d'être ici aujourd'hui. Et alors, en fait, puisque Hannon se traduit lui-même, en quelque sorte, mais il se traduit en même temps un texte qui n'existe pas. Voilà. Et c'est en fait ce jeu de traduction que je devais traduire en français. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu du pseudo-punique en latin, je devais traduire ce jeu du... donc, trouver un équivalent du pseudo-punique en français. Bon, je savais que je devais le traduire en français. Et ben voilà.
Oui, juste une question par rapport à la solution trouvée. L'effet de liste, il est effectivement intéressant, mais je me demandais, comme vous précisiez qu'il y avait un deuxième passage qui réutilisait la même langue, pseudo-langue punique, est-ce qu'on ne perd pas un effet de syntaxe ? C'est-à-dire qu'est-ce que cette langue, pseudo-langue, traduite comme ça, avec des mots juxtaposés, est-ce qu'il n'y avait pas un effort dans l'original d'inventer une langue avec sa syntaxe aussi ?
Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une question que j'ai éliminée parce que je voulais faire court. Non, vous avez tout à fait raison, mais en fait, après, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a un ou deux vers avec le pseudo-punique, mais il n'y a jamais de syntaxe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas repérer de syntaxe sur le texte. Alors, je vais vous redonner le texte en punique. Non, ça, c'est autre chose. Il n'y a aucune syntaxe. Je veux dire, là, il y a une impression, mais... C'est. Il y a des mots. En plus, le copiste. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison, parce que les pseudo-langues, il y a des pseudo-langues qui peuvent avoir une syntaxe. Mais à ce moment-là, c'est des vraies pseudo-langues. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, il n'y a pas de syntaxe. Et même le. Voilà, il n'y a pas de syntaxe. Il n'y a rien. Vous voyez. Ce qu'on peut voir juste, c'est des sonorités, des mots récurrents. Bah, vous avez des termes récurrents. Oui, mais c'est tout. Hein? Mais c'est tout. Hein? Mais ces termes récurrents, ils n'ont même pas de... Oui, il y a des termes récurrents, yit. Hein? Mais on peut aussi penser que ces termes récurrents, en supposant que ce soit le texte original, parce que lequel des trois, enfin bon, en plus. Hein? Alors, c'est celui qui ressemble le plus à quelque chose, et surtout, l'intérêt, c'est qu'il a Agorastoclès et Antidamas. Donc voilà, donc c'est celui qui ressemble le plus à ce qui serait une traduction en pseudo-punique, parce qu'en fait c'est comme ça que ça fonctionne, hein, en pseudo-punique du texte, ça veut dire. Alors, donc c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Alors, moi j'ai effectivement, si vous voulez, ce que j'ai mis en gras, puisqu'on y est, hein, c'est j'ai pensé ce sur quoi pouvait s'appuyer le jeu de l'acteur. Hein. C'est-à-dire les passages, on va voir les passages en latin, c'est plus facile en latin, qui sont visiblement des supports pour des jeux de voix, hein, puisque vous avez ici deus quae veneror, qui est un performatif, qui veut dire donc je révère les dieux et les déesses, hein, et qui donc suppose un certain ton de voix, voyez. Donc ce que je pensais, c'était plus des jeux de metteur en scène. Autre chose, hein, je pensais que ce ton de voix, mais qui pour nous ne marche pas, hein, ce ton de voix tout à fait identifiable pour un public roman, était mis sur un texte. Bon, mais de toute façon, la question que vous posez, c'est que moi, ce qui m'intéresse, et la seule chose pertinente, c'est l'effet pour le public romain. C'est pas fait pour les profs. Hein. C'est pas fait non plus pour les amateurs de faux langage. C'est quelque chose qui est fait que pour le théâtre. Donc, qui est ou pas, Enfin, je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être une syntaxe. Qu'il y ait une syntaxe ou pas, on s'en fiche, que de toute façon, cette langue n'existe pas. Voilà, c'est tout. Hein?
Est-ce que, pardon, comme on enregistre, il faudrait que les questions puissent passer dans le micro.
Donc, il y a une deuxième question, c'est la
Françoise.
Dernière.
Oui. Non, non, je voulais simplement dire, quand je vois sans rien comprendre, comme tout le monde évidemment, ce qui me frappe, c'est qu'ici, il y a des mots longs et des mots courts. Donc, on y croit plus comme une langue. On dirait qu'il y a des articles, des possessifs, des verbes. Tandis que dans la liste, tous les mots ont le même nombre de syllabes. Et c'est peut-être pour ça que madame a eu l'impression qu'il n'y avait pas de syntaxe.
Et là ?
Ah parce non. Qu'en fait, non, mais... oui, d'accord.
Ce que je veux dire, non mais, ce que je veux dire, c'est que c'est le copiste qui a donné cette, qui nous a découpé ça.
Oui.
Mais on ne sait pas. Hein, voilà. Mais vous avez raison. Ça donne une impression. Mais en plus, c'est les éditeurs d'aujourd'hui. Enfin, bon. Et voilà. Donc, c'est les éditeurs du texte latin d'aujourd'hui qui font ça. Et peut-être les copistes carolingiens, puisque c'est les plus anciens manuscrits sont. Son carolingien, hein, qui ont fait ça. Mais bon. Oui, oui. Alors là, évidemment, j'ai une plaisanterie. Voilà.
Et, oui, excuse-moi. Parce que vous disiez, ce n'est pas quelque chose pour les profs. Justement, c'est quelque chose pour le théâtre. Alors, il se trouve que moi, je fais du théâtre. Et en fait, moi, ça ne me choque pas du tout que ce soit une liste. Mais c'est vrai que le principe d'une langue fausse au théâtre... c'est quand même que, même si c'est des bêtises que tu dis, et ben justement, c'est qu'ils simulent, en quelque sorte, une syntaxe qui n'existe pas, qui n'y est pas. Voilà. Mais donc, et c'est vrai qu'avec une liste, après, peu importe, voilà, mais en tout cas, celle que vous avez choisie, effectivement, elle est même plus ou moins le même nombre de syllabes. C'est vrai que ça rend, voilà, quoi, ça donne pas l'impression vraiment d'un grommelot, quoi, d'une langue fausse. Voilà, c'est juste. Non,
alors, les deux remarques sont extrêmement intéressantes parce que justement, vous êtes metteur en scène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs jouent le texte, ce que ne faisaient pas les acteurs antiques. C'est-à-dire qu'en fait, leur diction n'avait pas pour fonction de rendre la syntaxe de la phrase. Et c'est intéressant parce que c'est un truc sur lequel... pour la tragédie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est précisément la codification du jeu qui donne l'intelligibilité du texte. Hein? Non, mais c'est formidable. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec notre façon... Enfin, du moins, beaucoup de façons, pour beaucoup d'acteurs, façon de jouer... Et lorsqu'on a fait les répétitions de Thiest, c'est ça dont on avait parlé, hein, c'est que si l'acteur joue le texte, s'il s'appuie sur le texte français, sur la structure de la phrase pour donner son intelligibilité, c'est mort. Non, donc on s'en fiche complètement de la syntaxe. Et voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça. Oui, d'accord, mais je ne peux pas le remettre parce que c'est trop compliqué. Hein, mais si vous regardez si vous réécoutez le texte du dictateur, il n'y a pas de vraie syntaxe non plus. Non.
Pardon. Je crois que le débat ne s'épuisera pas tout de suite. Je voudrais proposer, justement, puisque vous parlez de grommelot, que nous passions à la suite du programme. La transition est merveilleusement trouvée. Merci beaucoup, puisque nous allons demander à Laetitia Dumont-Lévy. Voilà. Nous allons demander à Laetitia Dumont-Lévy de bien vouloir relayer Florence Dupont et remercier beaucoup Florence Dupont pour son intervention.